une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Bonjour et bienvenue dans votre série de l'été, Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres. Nous allons nous plonger ensemble dans de grandes affaires criminelles françaises du 19e et du 20e siècle. Je vous emmène à Paris, au 36 Quai des Orfèvres. Je vous emmène à Paris et dans la France entière. Certaines d'entre elles sont des affaires célèbres. Toutes ont défrayé la chronique et portent leur part d'une histoire plus vaste. Bien plus qu'un crime, bien plus qu'un criminel, c'est la société, l'histoire des hommes et des femmes dans leur époque qu'elle raconte. L'affaire que je vais vous raconter aujourd'hui est une affaire criminelle, bien entendu, mais peut-être plus que cela, ou autre chose. Le temps de l'après-guerre n'est pas seulement celui de la liberté et de la joie retrouvée, c'est aussi celui des règlements de compte. Et c'est aussi celui où les services d'espionnage se réorganisent. Dans une Europe dont la carte se redessine, où apparaissent de nouvelles menaces. Je vous emmène aujourd'hui dans le mystère Sauty de Chalon. Nous sommes en 1945, au début du mois d'octobre. Le Reich allemand a capitulé il y a un peu plus de 4 mois. L'Europe devient le centre de nouveaux enjeux, de nouvelles tensions. Et une nouvelle guerre s'annonce, la guerre froide, sous la conduite des États-Unis et de l'URSS. Au cours de cet automne 1945, c'est le développement de l'arme atomique qui préoccupe les chancelleries. Et dans l'Allemagne détruite, occupée par les armées alliées, il y a aussi cette autre question. Que faire des usines d'armement qui ont échappé au bombardement? Et surtout, les usines d'armement chimique. L'histoire dans laquelle nous nous plongeons aujourd'hui n'est peut-être pas sans relation avec ces enjeux brûlants. 9 octobre 1945. Nous voici à Paris, sur l'île de la Cité. Or, nous ne sommes pas exactement au 36 Quai des Orfèvres. Nous ne sommes pas dans les bureaux de la Sûreté parisienne, mais dans ceux de la Sûreté nationale, au numéro 11 de la rue des Saussets. La Gestapo y a établi ses bureaux pendant l'occupation. Depuis quelques mois, la police nationale a repris possession des lieux. C'est le matin, il fait gris, le ciel est bas. Et pourtant, Paris semble joyeux. Dans cette liberté retrouvée, Paris n'a que faire de la grisaille et des feuilles qui tombent. On n'y pense pas. C'est le premier automne sans les Allemands, depuis longtemps. C'est un lundi matin. Il est 9h. Ça bouge, ça circule. On dirait une ruche, on passe d'un bureau à l'autre, on s'appelle dans les couloirs, les machines à écrire crépitent, et le téléphone sonne. Ah, on ne manque pas de travail, ça non. Il y a l'ordinaire, bien sûr, et il y a la libération qui a imposé de nouvelles missions, comme chasser le collaborateur. Mais pas seulement. Le crime se porte bien, dans un pays qui doit se reconstruire, se retrouver. La libération est aussi une période de flottement, où tout est possible, le meilleur, bien sûr, comme le pire. Entrons, si vous le voulez bien, dans le bureau du commissaire Decy. C'est un homme d'une 50aine d'années, imposant. Toujours la cigarette au bord des lèvres, une gitane. Même quand il parle, il a la clope au bec. Un inspecteur, une jeune recrue, vient d'arriver. Il s'appelle François Collier et c'est son premier jour. La porte du commissaire est ouverte. Collier toque timidement. Decy lève les yeux. Il n'a pas le temps d'ouvrir la bouche. Le téléphone sonne. Ah oui, ça sonne. Ça sonne beaucoup en ce moment. Il décroche. Il fait d'abord un « oui » sec pour faire comprendre qu'on le dérange. Puis il change de ton. Il a l'air embarrassé. Il fait des politesses. « Oui, oh oui, monsieur le préfet, oui. » Il dit « Bien sûr, bien sûr, bien sûr. » Et la conversation se termine par « Mais vous pouvez compter sur moi, monsieur le préfet, bien entendu. » Le commissaire raccroche, soupire. Puis il retrouve ses esprits. « Collier, hein, c'est ça, ouais, Collier. Bienvenue à la maison, inspecteur. » Decy pose quelques questions au nouveau, mais il ne l'écoute pas. Mais pourquoi le préfet l'appelle pour ça? Comme si on n'avait pas autre chose à faire, comme si ces gars n'avaient pas assez de boulot. À moins que... Il se met à jauger Collier. Il l'interrompt brusquement, souriant. « Je vais vous confier une mission de confiance, Collier. Inspecteur Collier. » Il écrase sa cigarette, en prend une autre, tend son paquet à l'inspecteur. Collier remercie. Il ne fume pas. Le commissaire lui parle d'une mission sensible, apparemment. Ça vient de chez le préfet de police. Il s'agit d'une disparition. Une disparition, c'est pas forcément un dossier prioritaire, non? À moins qu'il s'agisse d'un membre du gouvernement provisoire, d'une personnalité politique, d'un grand résistant, peut-être. Elle s'appelle... Il s'agit de la comtesse Sauty de Chalon. Moussia Sauty de Chalon. Et ne me demandez pas pourquoi le préfet appelle pour ça, mon petit. Si j'ai bien compris, le beau-père de Madame Sauty est conseiller à la Cour des comptes. Donc je suppose qu'il doit figurer en bonne place dans son carnet d'adresse. Mon petit, quand même. Collier, il a passé la trentaine, non? Il faudra qu'il s'y fasse. Il a son côté, disons paternel, le commissaire de Scie. Il lui tend ses notes avec le signalement de la disparue. Moussia Sauty de Chalon, né Sergueïev, 31 ans, 1m63, cheveux bruns, yeux bleus. De Scie précise, elle fait partie des AFAT. L'inspecteur sourcille. Les AFAT, mon petit, les auxiliaires féminines de l'armée de terre. Un genre de soldate, si vous voulez. Collier reprend la lecture des notes du commissaire. Vêtue d'une jupe kaki, d'un blouson gris fourré, coiffée d'un calot noir à bandes rouges, chaussée de souliers jaunes, côté divers, bague émeraude à l'auriculaire et aussi parle avec un accent slave. L'inspecteur remercie de Scie, mais il n'en pense pas moins. Il arrive et on lui donne un dossier dont personne ne veut, un dossier sans importance apparemment. Le commissaire rajoute « Dites Collier, elle aurait quitté Paris le 26 septembre pour se rendre aux Pays-Bas, au nord des Pays-Bas, à Groningue, pour rendre visite à des amis. Visiblement, elle devait rentrer le 2 octobre, mais elle n'est pas rentrée et son mari l'attend toujours. » Collier ne peut s'empêcher d'y penser. Une femme mariée se rend à l'étranger et ne revient pas. Et si c'était tout simplement une femme qui avait besoin d'aller prendre l'air? Le commissaire lui tend la main. Il est content, on dirait. Il se demandait à qui il allait pouvoir confier ce dossier sans intérêt. Et c'est tout trouvé. Ce sera pour le nouveau. Allez, encore bienvenue, mon garçon. Et voilà. François Collier, notre jeune inspecteur, vient de faire son entrée au 11 rue des Saussets. On lui a attribué un bureau. Enfin, un bureau, c'est plutôt... Plutôt une petite pièce mal éclairée dans laquelle il y a déjà deux policiers. On lui a réservé un petit coin avec une planche, une chaise, une machine à écrire et un cendrier. Les deux autres fument. On fume pas mal à la sûreté. Ses deux collègues échangent un regard. On dirait qu'ils sont en train de fomenter un complot. Ils observent Collier, ils n'en perdent pas une miette et ils en rient déjà. Ah, qu'est-ce que c'est puéril, mais c'est bon quand même. Et puis c'est une tradition, on accueille les nouveaux. Collier sort un carnet et un plumier de sa sacoche. Il les pose soigneusement. Il s'assied. Il pousse un cri de surprise et de douleur. Ah, ils rient de bon cœur, les deux collègues. Ah, le coup de la chaise cassée. Il est par terre, Collier. Il grimace de douleur. Puis il force un sourire. « Bienvenue au Saussets, inspecteur !» Nous sommes le 12 octobre 1945. Comme tous les jours, Collier arrive de bon matin. Il a son côté premier de classe, l'inspecteur. Ça énerve, mais on se dit que ça va lui passer. On a tous, un jour ou l'autre, voulu faire du zèle pour se faire remarquer du patron, non? Sauf que là, le patron a vraiment d'autres chats fouettés. Il doit être 8 heures environ. Collier attend le patron devant son bureau. Ben oui. Oui, c'est la meilleure façon pour qu'il vous accorde quelques minutes et Collier a quelque chose qui pourrait intéresser de Scie. Le surprendre même. Ah, Il arrive. On reconnaît son pas. Lourd, assuré. Collier s'écarte pour le laisser passer.
Mais qu'est-ce que vous faites là, Collier ? Quoi ? Du neuf dans le dossier Sauti, c'est ça ?
L'inspecteur veut lui faire son rapport, mais Dessier lui demande de revenir en début d'après-midi. Collier reste là, penaud, avec son carnet en main. Il comprend peut-être déjà qu'il va devoir faire avancer tout ça dans son coin. À 14h pétante, il se présente à nouveau. Eh bien non, le commissaire est au téléphone. Ce sera pour plus tard. Et puis la journée passe et notre inspecteur devra revenir. Encore et encore, parce que le patron n'en a pas grand-chose à faire du dossier Sauti de Chalon. Nous sommes le 15 octobre. Est-ce que le préfet a appelé ? C'est bien possible. Étrangement, le commissaire Dessy paraît très empressé, préoccupé même. Cette fois, c'est lui qui se rend dans le bureau de Collier. Il jette un regard à la planche qu'on a réservée au nouveau. Il prend son air paternel et le ton de celui qui s'en préoccupe. Alors,
bien installé, Collier ?
Il enchaîne aussitôt.
Collier, j'attends votre rapport sur le dossier Sauti. On en est où ?
Collier reste sans voix, il veut dire que son rapport est prêt et qu'il veut lui en parler, et bien depuis 3 jours au moins. Mais il se ravise. Il faudra qu'il s'y fasse.
Eh bien justement, commissaire, il y a quelque chose qui me paraît important. Madame Sauti de Chalon, elle n'est pas militaire. J'ai appelé les services de l'armée et... Désolé, mais on ne la connaît pas.
L'inspecteur Collier en a fait plus. Il a interrogé son mari, le comte Sauti de Chalon. Il ne comprenait pas. Sa femme faisait bien partie des auxiliaires féminines de l'armée de terre, depuis plusieurs mois. Il semblait confus, le mari. Dessy s'assied sur un bureau. Il allume une cigarette, en propose une à Collier. L'inspecteur fait non de la tête. Collier se dit que c'est la première fois qu'il voit le patron s'intéresser à son dossier. Il tire sur sa cigarette, nerveusement.
Vous êtes sûr pour l'armée, Collier, avec ce foutoir, le registre sont à jour ?
L'inspecteur s'est rendu au ministère de la guerre. Alors d'accord, la libération, ça a été un peu le foutoir, c'est vrai. Mais bon, ça commence à rentrer dans l'ordre maintenant. Et dans l'armée, on peut dire que c'est bien tenu quand même. Collier a une idée. Il se dit qu'il doit l'amener doucement pour que le commissaire pense que ça vient de lui. Je me demande, les amis de Groningue, est-ce qu'ils sont vrais, eux ? Le commissaire prend l'air de celui qui veut recadrer sans subordonner.
Enfin, ben, bien entendu, Collier, c'est la première chose à vérifier, voyons. Trouvez-moi leur adresse, Hollandais, et tenez-moi au courant, et au plus vite.
La première. Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, dans Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres, je vous parle de l'affaire Sauti de Chalon en 1945. En cette période agitée, la sûreté parisienne a fort à faire. Alors quand le préfet de police confie un banal dossier de disparition au commissaire Dessy, ce dernier a tôt fait de le confier à sa nouvelle recrue, l'inspecteur Collier. La disparue, une certaine comtesse Moussia Sauti de Chalon, une auxiliaire de l'armée, semble s'être volatilisée après une visite à des amis aux Pays-Bas, à Groningue. Mais l'inspecteur Collier vient de découvrir qu'elle ne fait pas partie de l'armée. Et il finit par s'interroger sur l'existence de ces fameux amis hollandais. Il ne manque pas d'efficacité, l'inspecteur Collier. Seulement, il n'ose plus faire le premier de classe. Disons qu'il n'a pas osé rendre compte au patron de toutes ses démarches. Il a déjà vérifié pour les amis hollandais. Le comte Sauti de Chalon, le mari de la disparue, lui a remis leur adresse. Collier leur a écrit et ils ont déjà répondu. Ils existent. Ils existent bel et bien, les amis de Groningue. 2 jours plus tard, Collier se présente dans le bureau du patron. Et cette fois, il n'est pas renvoyé à plus tard.
Non seulement ils existent, commissaire, mais j'ai mieux que ça.
Il l'a dit, sans trop la ramener. Il a compris que le commissaire n'était pas de ceux qui laissaient entrer ses subordonnés dans la lumière. Mais peu importe, il vient d'arriver, il a tout à apprendre. Il s'adaptera. Après, on verra. Il lui tend une grande enveloppe timbrée. Le commissaire en sort une lettre ainsi qu'une photo de Moussia Sauti de Chalon. Dans son uniforme, entouré de 2 enfants, ceux des amis auxquels elle a rendu visite. Et puis, et puis une carte postale, avec dessus un hôtel, le Palace Hotel, à Bruxelles. C'est le genre de carte qu'on trouve à la réception dans certains hôtels importants. Le commissaire la retourne. Elle a été envoyée le 1er octobre. À côté de l'adresse des amis de Groningue, quelques mots, vraiment pas grand-chose. Je rentre à Paris dans une heure. Amitié, Moussia. Le commissaire la garde en main. On dirait que quelque chose le préoccupe. Mais quoi donc?
Vous venez de quitter vos amis et vous faites halte à Bruxelles. Et vous leur écrivez une carte pour leur dire « Je rentre à Paris dans une heure ». Vous feriez ça, vous Collier?
L'inspecteur reste sans rien dire. Il réfléchit. Il ne sait pas. Mais peu importe. Elle l'a fait, non? Qu'est-ce qu'il cherche à démontrer, le commissaire? C'est sa façon de chercher. Il faut se laisser inspirer par tout ce qui fait relief. Ces petites choses qui ne veulent peut-être rien dire, mais qui veulent peut-être dire quelque chose.
Imaginez un peu que son intention n'est pas du tout de revenir à Paris, Collier, mais qu'elle veuille faire croire qu'elle va prendre la direction de Paris pour mieux disparaître.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait la pousser à vouloir disparaître? Ça, de si, ne s'en préoccupe pas. Sa façon de faire, c'est de soulever chaque étrangeté. Mais Collier semble pouvoir y apporter une réponse.
Elle n'avait pas de véhicule, commissaire. Elle s'est rendue à Groningue comme passagère, dans un véhicule militaire, un véhicule de l'armée canadienne. Elle a dû faire le trajet retour de la même façon, comme passagère, jusqu'à Bruxelles. Elle aura donc dû chercher un autre chauffeur qui accepte de la prendre à ses côtés, jusqu'à Paris.
Dessy regarde attentivement l'inspecteur. Il le fixe, mi-curieux, mi-étonné. On dirait presque que c'est la première fois qu'il lui parle. Il commence à l'intéresser, ce jeune gars. Il se dit qu'on pourra sans doute en faire quelque chose de cette recrue. Il lui tend une cigarette avant de se servir. C'est drôle. Les autres fois, il s'était servi d'abord, avait tendu le paquet ensuite. Collier l'a remarqué, bien entendu. Est-ce qu'il n'entre pas enfin vraiment dans la maison au Saucet? C'est peut-être pour ça qu'il prend la cigarette, Collier. Pour en être. Il se penche au-dessus du briquet que lui tend de si.
C'est bien, mon garçon.
C'est bien. Non, pas pour la cigarette, mais pour sa façon de poser ou de contrer une hypothèse. Mais alors, pourquoi? Pourquoi envoie-t-elle une carte sur laquelle elle écrit qu'elle rentre à Paris dans une heure? Je dirais pour que ses amis sachent qu'elle a trouvé un chauffeur pour la conduire de Bruxelles à Paris. Pour les rassurer, parce qu'ils étaient inquiets pour elle, pour la suite de son trajet. Collier aspire la fumée. Il ne s'attendait pas à ça. Il tousse terriblement. Il s'apaise, puis il rougit, de gêne. Le commissaire sourit, discrètement. Il tire une bouffée sur sa cigarette. Il opine. Bien sûr, c'est possible.
Collier, appelez Bruxelles, cet hôtel.
Il jette un coup d'œil sur la carte.
Le Palace Hotel.
Le commissaire Dessy est satisfait. Manifestement, c'est à Bruxelles que ça se passe. Ou que ça s'est passé. Il décroche son téléphone. Il appelle aussitôt le préfet. Il a l'air content, le préfet. Bien. Bien, mais par qui il est poussé? Par quoi?
Il vient de dire à Dessy aussitôt « Envoyez un inspecteur à Bruxelles, commissaire. Je me charge des formalités. »
Le commissaire commence à se demander si ce n'est qu'une affaire de carnet d'adresse. Et il ne va quand même pas envoyer Collier. Il n'y a même pas un mois qu'il est dans la maison. Il va avoir la grosse tête. Ce n'est pas bon, à son âge. Dessy en fait désormais une affaire prioritaire. Et pourtant, qu'est-ce qui permet de dire à ce stade que l'affaire Sauty de Chalon est plus qu'une banale disparition, comme il y en a tant? Surtout en s'étant troublé de l'après-guerre. Nous sommes le 21 octobre, à Bruxelles, place Rogier, dans ce qui est alors l'un des plus grands hôtels de la capitale, un palace dans le style Art Nouveau. Certains d'entre vous le connaissent, cet hôtel, bien entendu. Il s'appelle aujourd'hui le Crown Plaza. En cet automne 1945, il est réquisitionné par l'armée pour les militaires de passage, comme de nombreux hôtels depuis la libération. L'inspecteur Collier a fait le trajet en voiture, avec un véhicule de la préfecture, s'il vous plaît, mis à disposition
par le préfet, oui. Les trains circulent mal encore. C'est probablement ce qui aura poussé Moussia, Sauty de Chalon, à gagner les Pays-Bas en voiture, non ? Comme lui, pour rejoindre Bruxelles. Collier est accueilli par un inspecteur bruxellois qui l'emmène en tram vers la place Rogier. La ville a l'air joyeuse, il y a beaucoup de militaires, des Canadiens surtout. La place Rogier s'ouvre devant la gare du Nord, l'ancienne gare du Nord. Ils sont arrivés au palace. Collier a quelques questions à poser aux employés de l'hôtel. Oh, ça lui prendra certainement pas plus d'une journée. Mais elle sera longue, oui. On ne manque pas de personnel au palace. L'inspecteur demande d'abord le registre de l'hôtel. Il y a une Moussia Sergueïev, lieutenant AFAT, reprise dans ce registre. Pas Moussia Sauty de Chalon, non, mais Moussia Sergueïev, son nom de jeune fille. Pourquoi pas Chalon ? Se demande Collier. Elle y a passé la nuit du 30 septembre au 1er octobre. Chambre 216. Est-ce qu'elle est partie avec quelqu'un ? Le réceptionniste réfléchit. Il désigne un jeune homme qui s'affaire avec des valises. C'est un garçon d'étage, en uniforme bleu roi, un calot sur la tête. Un groom, comme on dit. C'est lui qui s'occupe du deuxième étage. Et il s'en souvient de la dame du 216. De cette dame brune, gentille, avec un accent. Avec un accent slave, songe Collier. Et le 1er octobre, le matin, quand elle est partie, est-ce qu'il y avait quelqu'un avec elle ? Est-ce qu'elle est montée dans une voiture ? Oh, elle est partie avec un soldat français, monsieur, un officier. Un soldat français, et il peut préciser, un officier. Il sait reconnaître les uniformes à force. Pas exactement les grades, mais les uniformes, ça oui. Et puis il parle français. Collier lui pose la main sur l'épaule, le remercie. Il lui glisse une pièce d'un franc dans la main. « Oh, merci, monsieur !» L'inspecteur a peut-être ce qu'il lui faut, un officier français. Il retourne à la réception, demande le registre. Le mois de septembre, du début à la fin, il en parcourt les pages, fébrilement, rapidement, mais sans rien perdre. Il cherche un nom. Enfin, tous les noms, tous les soldats français. Il a repris le registre depuis le 1er septembre, pour être sûr. Toutes les arrivées, il les a. Ils sont quatre. Ils ne sont que quatre. Le lieutenant Davoine, le major Vernier de Miramont, le lieutenant Glouadec, le capitaine André. Une chose est sûre, Collier est sur la bonne voie. Quelques heures sont passées, à peine. Et Collier a déjà l'essentiel. Enfin, il reste encore une chose à demander au groom. Le français, avec quelle voiture il conduisait, tu t'en souviens ? Ah oui, il s'en rappelle. Il s'en rappelle très bien même. Il roulait avec un coupé Renault de l'armée américaine. Une Renault décapotable avec l'étoile américaine en grand sur chacune des deux portières avant. Un officier français dans un véhicule de l'armée américaine. Mais est-ce que c'est réglementaire, ça ? En tout cas, ça ne doit pas être si courant. Et c'est ça le plus important. Désormais, Collier sait ce qu'il lui reste à chercher. Nous sommes le 27 octobre. Notre jeune inspecteur est de retour à Paris. Il est de retour rue des Saussets, dans le bureau du commissaire de Scie. Cette fois, il n'hésite plus. Il en a fumé quelques-unes. Depuis la première, il allume avec assurance la cigarette que le commissaire vient de lui proposer. De Scie est debout devant la fenêtre, dans un nuage de fumée. Collier vient de lui rapporter le résultat de ses recherches à Bruxelles, et dans la foulée, le résultat de ses recherches au ministère de la guerre.
« Décidément, mon petit François, je me demande où nous emmène cette enquête. Vous me dites que l'un de ces quatre militaires que vous avez identifiés à Bruxelles est inconnu du ministère de la guerre. »
« Exactement, commissaire, c'est ça. » Vernier de Miramont, inconnu. Inconnu au bataillon, si je puis dire. Il n'y a d'ailleurs aucun Vernier de Miramont nulle part. Encore un militaire qui n'en est pas un. Comme l'a disparu elle-même. De Scie se retourne. Il rejette la fumée de sa cigarette par le nez. Il reste en silence, comme en contemplation. Devant ce qui, manifestement, se présente de plus en plus comme un dossier spéciale. Il y a cette femme disparue, Moussia Souti de Chalon, qui porte l'uniforme militaire sans en être. Et à présent, il y a ce Vernier de Miramont, un homme sous une fausse identité qui, lui aussi, porte l'uniforme sans être le moins du monde soldat. C'est un dossier qui devient un sacré foutoir, on dirait. Quel rôle le préfet lui fait jouer? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait qu'il en parle au préfet, qu'il essaie de savoir à quel jeu joue-t-il. Alors quand le téléphone sonne et que l'opératrice lui passe la communication, Dessy se jette à l'eau et fait part de ses doutes. Mais ça ne plaît pas du tout au préfet.
Pardon, commissaire, j'ai peur de ne pas vous comprendre. Et d'ailleurs, je préfère ne pas essayer de vous comprendre. Je vous ai demandé de consacrer une partie de vos activités, de vos investigations à une disparue, voilà tout, sans plus. Je pense que votre imagination vous joue des tours, commissaire Dessy.
La Momière.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres, je vous parle de la disparition de la comtesse Sauty de Chalon en 1945. L'inspecteur Collier de la Sûreté Nationale est parvenu à retrouver sa trace à Bruxelles. Elle est montée dans la voiture d'un soldat français pour prendre la route de Paris. Mais ce soldat est inconnu au ministère de la Guerre. Qui est-il? Et où est-il? Il est sans doute la réponse au mystère de la disparition de Moussia Souti de Chalon. Les jours passent. L'inspecteur Collier attend quelque chose qui pourrait donner une nouvelle impulsion à l'enquête. Mais ça n'arrive pas. Enfin, il peut être fier de lui, François Collier, non? Pour une première enquête, il se débrouille, non? En attendant, il est tard. Il rentre chez lui. Son petit chez lui. Un petit deux chambres près du boulevard Magenta. Il est fatigué de ses premières semaines, intenses, au sein de la Sûreté Nationale. Nous sommes le 13 novembre 1945. Il fait gris, terriblement gris. Il pleut tellement, tout est humide. Collier a pris froid, il est grippé ou quelque chose comme ça. Il est resté au lit. Mais on sonne. C'est la concierge. Si elle monte, c'est que ça doit être important. Un appel urgent pour lui, au téléphone, dans la loge de la concierge. Il n'a pas de téléphone chez lui, Collier. Alors il descend, péniblement. Il saisit le combiné. Collier ! C'est le commissaire Dessy. Il a l'air sérieux. Grave même.
C'est Souti de Chalon. On l'a retrouvé, Collier.
Moussia Souti de Chalon était retrouvée. Morte. Par deux cantonniers qui travaillaient le long de la route de Cambrai. La Nationale 17. Il y avait un tas de terre et de sable. Ça ne leur paraissait pas naturel. Alors ils ont donné 2-3 coups de pelle et ils l'ont découverte. Un corps nu, entièrement nu. Il n'y avait rien d'autre. Ah si. Si une chose, un banilon, et c'est tout. Collier arrive rue des Saussets. Il est fiévreux. Il écoute ce que lui rapporte le commissaire. Après les premières constatations et vu l'état du corps, la mort pourrait remonter à un mois et demi, pas beaucoup plus. Ah bon, et comment l'a-t-on identifié? Les dents, Collier, les dents. Elle ne portait plus aucun bijou, même pas son alliance. Voilà une partie du dossier qui se referme. Mais il reste l'autre partie, à présent. Qui? Qui est à l'origine de la disparition et de la mort de Moussia Souti de Chalon? Bien évidemment, il y a l'ombre de l'officier français. Celui qui n'était encore qu'un simple chauffeur ayant accepté de la reconduire. Désormais, cette ombre s'impose à l'esprit de notre enquêteur, Collier, comme celle, très probable, d'un assassin, sur lequel il faut concentrer toute son énergie. En attendant, Collier retourne chez lui. La fièvre est revenue, plus forte. Il faut qu'il s'alite, qu'il se soigne. Dans son sommeil, fiévreux et agité, il y a ce spectre, un officier français, dans un véhicule militaire américain, et un cadavre, un corps nu, au bord d'une route.
Plusieurs semaines ont passé. Nous sommes au début du mois de février 1946. On n'entendait plus grand-chose, mais ça y est, un coup de fil de la gendarmerie nationale. La gendarmerie française dans les territoires allemands, dans la zone française, vient donner enfin un élan décisif à l'enquête. Écolier part aussitôt, direction Tübingen, dans le Württemberg, en Allemagne. Tübingen est dans la zone occupée par la France. La gendarmerie vient d'arrêter un faux médecin, un officier, avec le grade de capitaine. Enfin, un faux médecin et faux officier. Il se fait appeler de Forter. C'est le commissaire Dessy qui annonce la nouvelle à Collier.
Il a été contrôlé par la gendarmerie, sur nos indications, la Renault avec l'étoile américaine.
Collier arrive à Tübingen 2 jours plus tard. Les gendarmes qui l'accueillent ont un air étrange. Ils ont l'air embarrassés. Et il y a de quoi ?
Eh bien, il s'est échappé. Il s'est échappé cette nuit.
Et là, Collier n'en revient pas.
Non, ça n'a pas pu arriver. Son suspect, celui qui est peut-être, qui pourrait être le meurtrier de Moussia Sauty de Chalon, ils l'ont laissé échapper. Mais comment est-ce arrivé ?
Écoutez, inspecteur, il était menotté, les mains dans le dos, il est resté seul, une ou deux minutes peut-être, et la fenêtre était ouverte et...
Il a sauté du premier étage. D'une hauteur de 3 mètres, il a dû se blesser, certainement. Il n'a pas pu aller loin. Collier est atterré. Il reste sans voix. Il va rester là. Il ne va pas rentrer comme ça. Il ne peut pas rentrer à Paris. Pas maintenant. Ça n'est pas possible.
Deux jours plus tard, on le retrouve. On l'arrête à nouveau. Le capitaine de Forter, faux officier, faux médecin. Il porte aussi un faux nom.
La police militaire vient d'obtenir des renseignements précieux. Celui qui se fait appeler de Forter se fait également appeler Vornier de Miramont. Il est fiché à l'identité judiciaire. Pas à Paris, non, à Bruxelles. Et il s'appelle Léon Meurant.
L'inspecteur Collier va prendre son temps. Il est nerveux. Il veut y arriver, mais il faut qu'il se maîtrise.
Il s'est acheté 2 paquets de cigarettes, des gitanes, comme le patron. Ça pourra l'aider à tenir. Il l'interroge toute la nuit. Il l'interroge encore les jours suivants. Mais Léon Meurant se mure dans le silence.
Est-ce que c'est la presse qui finit par ouvrir une brèche ? La nouvelle est dans tous les journaux. On a arrêté l'assassin de la comtesse Sauty de Chalon. Et bien loin du Württemberg, à Anvers, une jeune femme ouvre le journal. Elle relit, elle pâlit. Elle regarde sa main, son auriculaire, sa bague, la pierre, une émeraude. Elle comprend, cette jeune femme, en regardant la bague que lui a donnée son fiancé.
Oh, bien sûr, elle n'ignore pas qu'il mène une vie d'aventure, faite d'activités que la loi réprouve. Les vols, elle sait. Les petites escroqueries, oui, bien sûr. Mais ça, ce corps dépouillé, cette femme assassinée sur le bord d'une route, c'est insoutenable.
Elle se présente quelques heures plus tard dans un commissariat. Et de coup de téléphone en coup de téléphone, la nouvelle parvient finalement à Tübingen.
Ça y est, Collier peut dire à Meurant que c'est fini et que sa fiancée vient de déposer dans un commissariat à Anvers la bague qu'il lui avait offerte. Une si belle pierre, une émeraude. La bague de la comtesse Sauty de Chalon.
Un instant, Collier y croit, parce que Meurant se met à parler.
Oui, mais ce n'est pas ce que l'inspecteur attend.
Il parle d'un autre homme, un homme aux yeux en amande, dit-il. Enfin, il veut dire des yeux bridés.
On l'appelle le Mongol.
Ce Mongol serait l'assassin de Moussia Sauty de Chalon.
Un Mongol ? Un homme de petite taille, de type asiatique ?
Un soldat américain, précise-t-il encore.
Est-ce que Meurant ne veut pas emmener l'inspecteur dans une fable? Peut-être, oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas tout passer au tamis? Tout explorer? C'est ce que ferait le patron. Alors Collier repart pour Bruxelles. Il retrouve son inspecteur bruxellois qui l'emmène au Palace Hotel. Il retrouve son réceptionniste et son groom. Un Asiatique dans un uniforme américain? Oui. Ah oui, il s'en souvient. Oh, vous savez, des Asiatiques, on n'en voit pas beaucoup, hein, monsieur? Meurant lâche progressivement des éléments. Et ce n'est pas peu de choses. Le Mongol, complète-t-il, appartient au même service que moi. Au même service? Meurant a l'air tellement sûr de lui.
Oh, faites pas le candide, inspecteur, le même service, vous me comprenez bien.
Oui, Collier comprend. Mais est-ce bien sérieux, vraiment? Meurant, le Mongol, membre du même service de renseignement, au service d'une puissance étrangère? Celui qu'il appelle le Mongol serait son supérieur hiérarchique. Et voilà que Meurant finit par expliquer comment ça s'est passé. En mission à Bruxelles, il est entré en relation avec le Mongol. Il lui a désigné quelqu'un à surveiller au Palace Hotel, Moussia Sergeïev. Elle avait besoin d'une voiture pour l'emmener vers Paris. Elle est montée dans sa voiture et sur la route de Cambrai, il a été arrêté par une jeep. À bord, un soldat américain, le Mongol.
Il m'a fait descendre, il m'a fait signe de m'éloigner et il est resté seul avec elle.
C'est tout. C'est tout ce qu'il peut dire, Meurant, alias de Forter, alias Vernier de Miramont. Collier soupire. Il allume encore une cigarette. C'est la dernière. Il se tait. Il est épuisé. Il a envie d'aller se coucher.
Vous serez prêt à raconter la même fable devant une cour d'assises, Meurant?
Devant une cour d'assises? Il faudra encore du temps et encore des devoirs d'enquête pour essayer d'écarter les incertitudes. Et puis la justice a tellement d'autres dossiers à digérer. Léon Meurant est renvoyé devant la cour d'assises de la Somme à la fin du mois d'octobre 1951, soit 6 ans après la découverte du corps de Moussia Sergeïev, de Moussia Sauti de Chalon. Et voilà que brusquement, dans cette affaire ténébreuse, la personnalité de la disparue fait irruption dans les débats. L'avocat de Meurant est talentueux. Il y a, oui, des étrangetés dans ce dossier. Et il a de quoi semer le doute. Qu'allait-elle faire aux Pays-Bas? Et pourquoi portait-elle l'uniforme? Est-ce qu'elle ne dissimulait pas quelque chose? Mais il y a plus. L'avocat de Meurant a bien travaillé. Il s'engouffre dans chaque brèche. Et il le fait bien. Il saisit une photo, une grande photographie d'une femme, brune, elle aussi, qui ressemble à Moussia Sauti de Chalon. Il la porte sous les yeux des jurés.
Savez-vous qui est cette femme?
Cette femme s'appelle Lily Sergeïev. C'est la sœur de la victime, la sœur de Moussia.
Et savez-vous quelle était l'activité de Lily Sergeïev? Non, bien sûr, vous l'ignorez, mais les hommes bien informés savent quel service elle a rendu pendant la guerre et jusqu'après la guerre.
Lily Sergeïev était entrée au service de l'Abwehr, l'espionnage allemand. Et puis, elle était passée du côté anglais, au service du MI5, qu'il avait recruté au contre-espionnage. L'avocat de Meurant ne peut s'empêcher de s'en saisir.
Vous ne pensez pas que tout ceci, l'assassinat de la comtesse Sauti de Chalon, née Sergeïev, dépasse de loin ce qui intéresse notre justice ordinaire? Et si c'était autre chose qui s'était réglé ce 1er octobre 1945? Un quelque chose qui appartient à la guerre? Cette guerre dont nous devons tous tourner la page.
Les jurés entrent en délibération. Non, c'est long. Moussia Sauti de Chalon aurait-elle travaillé au sein d'un service de renseignement, comme sa sœur? Sa mort a-t-elle un rapport avec sa sœur? Sa mort est-elle liée à un règlement de compte entre services? Oui. Ah, il a bien travaillé, l'avocat de Meurant. Est-ce que cette affaire-là ne dépasse pas les missions de la justice qu'ils doivent rendre, eux, les membres du jury de la cour d'assises ? C'était long. Mais voilà, ils reviennent. Leur réponse, leur verdict, coupable. Coupable d'assassinat. Léon Meurant est condamné à mort. Il échappe à la guillotine, il est gracié par le président de la République, le président Auriol. Sa peine est commuée en travaux forcés à perpétuité. L'affaire Sauty de Chalon vient de connaître son dernier acte.
La Momière.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Jérôme de Breuer, bonjour.
Bonjour Jean-Louis.
Vous êtes professeur d'histoire du droit à l'ULB et vous allez nous éclairer sur cette affaire, une affaire traitée par la Sûreté Générale. Donc on quitte le 36 Quai des Orfèvres.
On quitte le 36 Quai des Orfèvres pour nous installer, le temps de ce récit, rue des Saussets.
Et pourquoi donc ?
Alors, rue des Saussets, c'est le siège de la Sûreté Générale, qu'on appelle à l'époque déjà la Sûreté Nationale. Mmh. Alors, pourquoi la Sûreté Nationale ? Pourquoi pas la Sûreté Parisienne ? Tout simplement parce que c'est une disparition, et qu'on ne sait pas où cette disparition a eu lieu. Elle a pu avoir lieu à Paris, comme ailleurs. Hein, je vous rappelle que Sauty de Chalon devait se rendre de Paris vers les Pays-Bas. Donc, c'est bien entendu une enquête qui est confiée à un organisme, une institution plus large que la seule Sûreté parisienne. Et puis, l'enquête va se resserrer autour de la région de Cambrai, et c'est la brigade mobile de Lille, hein, qui fait partie elle aussi de la Sûreté Générale, de la Sûreté Nationale, c'est la brigade mobile de Lille, la deuxième brigade mobile qui va s'investir dans l'enquête à ce moment-là.
Oui, mais les brigades mobiles, ce sont les fameuses brigades du Tigre.
Tout à fait, ce sont les brigades qu'on appelle les brigades du Tigre aujourd'hui, comme vous dites. Donc, on retrouve ces brigades du Tigre, ces brigades mobiles, après la guerre, et elles vont assez rapidement disparaître. Elles vont en réalité changer de nom, si vous voulez. Les brigades mobiles vont être supprimées en 1947 et seront remplacées par ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on entend aujourd'hui, hein, ou ce qu'on peut lire aujourd'hui dans les journaux. On parle de SRPJ, hein, les services régionaux de police judiciaire.
Les fameux aussi SRPJ. Merci en tout cas, Jérôme. Et puis à très bientôt pour une nouvelle affaire. Rendez-vous donc très vite sur la première au 36 Quai des Orfèvres.
La première.
Un crime, une histoire. 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.